Notre Église étudie en ce moment l'Évangile selon Jean. Et notamment pendant ce projet des 1000 heures de prière, nous cherchons des aides et des motivations pour prier. Et a priori, ce passage ne porte pas sur la prière. Mais en réalité, tout ce passage est une réponse à la prière. Ce passage illustre bien les versets qui ont été lus ce matin en Éphésiens, que notre combat, notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. Et notre arme, c'est la prière, c'est l'amour de Jésus-Christ. Le royaume de Dieu n'avance pas par l'épée, ou la violence, ou la force, mais par l'attitude et le comportement de Jésus-Christ ici. Alors, tel est l'appel ce matin. Remets ton épée. Alors, quand on pense à l'épée et la foi chrétienne, certaines pensent immédiatement aux croisades qui ont pu donner une mauvaise image au christianisme. Mais récemment, il y avait un article sur le site jésus-islam.fr écrit par un ancien musulman et un ami lui a suggéré de creuser un peu plus l'histoire des croisades. Il était obligé de regarder un peu plus les histoires et fouiller les détails. Il arrive à la conclusion, comme beaucoup d'historiens, que les croisades étaient on peut revoir l'histoire selon ce qu'on dit souvent de nos jours. Et il tire cette conclusion, les croisades étaient en tout point une guerre défensive. Elles furent la réponse tardive de l'Occident à des siècles d'attaques musulmanes et à la conquête des deux tiers du monde chrétien. Donc lui-même, il a un peu changé d'avis sur le sujet, tout en reconnaissant qu'il y a certainement eu des cas au cours de l'histoire où les chrétiens ont oublié cette consigne de Jésus à Pierre, « Remets ton épée ». Nous devons néanmoins reconnaître que beaucoup de chrétiens ont suivi les conseils de Jésus et ont changé notre monde et notre civilisation. Il ne faut pas oublier, par exemple, l'impact que ce genre de passage a eu sur notre histoire, même récente. Dans quelques semaines, nous allons célébrer Pâques ensemble. Mais à quelques jours de près, ce sera aussi la 50e anniversaire de la mort de Martin Luther King. Tout le monde connaît Martin Luther King, cet homme qui a milité pour l'égalité des droits, notamment des Noirs aux États-Unis et dans le monde entier. Mais surtout, l'héritage que Martin Luther King nous a laissé, le message pour lequel il a milité, c'est que nous devons, oui, nous voulons nos droits, mais nous devons toujours agir d'une manière non violente. Nous devons toujours agir avec paix. Nous devons toujours aimer celui en face de nous. Et ces idées venaient de la Bible. Finalement, il ne faut pas oublier que Martin Luther King était un pasteur, un prédicateur baptiste, et c'est à partir de là qu'il a mené ce mouvement. Et donc, des passages comme celui que nous venons de lire ont été clés, même pour notre histoire récente, et pour impacter une manière de voir les choses. Nous voyons ici, finalement, deux manières de vivre. La première, c'est celle des soldats romains, c'est celle de Judas, c'est celle même de l'apôtre Pierre, avant que Jésus nous l'empêche. Une manière qui s'appuie sur la force physique, sur la violence, sur la vengeance, sur la colère, pour obtenir ce qu'on veut. Et puis, il y a la manière de Jésus, qui est la solution spirituelle, qui consulte Dieu, qui répond avec amour, qui remet l'épée. Et ça nous concerne tous. On n'a pas besoin d'être un chevalier au Moyen-Âge ou un Martin Luther King pour être concerné. Chaque jour, chacun de nous doit choisir entre ces deux méthodes, non seulement pour les causes politiques et sociales, mais déjà dans le foyer, au travail, dans toutes nos relations. Remets ton épée. Il y a même un proverbe, Proverbe chapitre 12, verset 18, qui dit que notre langue peut être une épée aussi. Ce proverbe dit, « Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, comme une épée, mais la langue des sages apporte la guérison. » L'épée de Pierre a blessé une oreille, certes, mais l'épée de la langue peut faire bien plus de dégâts. Et nous devons parfois remettre cette épée aussi. Alors, comment faire pour remettre l'épée, pour agir comme Jésus et non comme Pierre, non comme Judas, non comme les soldats romains? Comment agir comme Jésus? Ça semble impossible, des fois. Quand nos collègues vous cherchent, vous embêtent. Quand à la maison ou en famille, vous êtes tenté à suivre la voie de l'amertume, de la violence, de la riposte, eh bien, le jardin de Gethsémané peut encore nous aider ce matin. Alors, pour cela, il nous faut la prière, il nous faut la puissance de Jésus et il nous faut la promesse d'un autre monde. Pour agir comme Jésus, pour remettre l'épée, il nous faut la prière, il nous faut la puissance, sa puissance, et il nous faut la promesse, la perspective d'un autre monde. Tout d'abord, voyons la nécessité de la prière pour réagir ainsi. Le verset 1 dit, « Lorsqu'il eut dit ces choses, selon d'autres traductions, après avoir ainsi prié, Jésus se dirigea vers le jardin. » Donc, on se rappelle juste ce qui vient avant, ce chapitre 17, qui est toute une prière, où Jésus se tourne vers son Dieu et demande à son Dieu de se glorifier à travers de lui, qui prie à Dieu de l'aider à garder ses disciples. Donc finalement, nous savons que Jésus a fait face à sa dernière heure, à ce moment d'épreuve et de tentation, il a fait face à cette heure fort d'une communion avec Dieu, fort d'une vie de prière. Et même, il a eu des exaucements, on va dire, immédiats de sa prière en chapitre 17, il a eu des exaucements dans le jardin de Gethsémané. Par exemple, le verset 9, Jean se rappelle de ça et Jésus protège ses disciples, il dit « Laissez cela aller ». Et verset 9, il dit cela « Afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné ». Cette parole, il l'avait dit en chapitre 17, verset 12, « Je prie pour ce que tu m'as donné et qu'aucun ne soit perdu ». Donc ce qui s'est passé dans le jardin de Gethsémané était une réponse aux prières de Jésus. Ou encore en verset 11, pour dire à Pierre, remets ton épée, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Ça aussi, c'est une réponse à la prière, ou cette attitude, Jésus l'a trouvée dans la prière. C'est vrai que Jean ne rapporte pas les moments intenses de prière dans le jardin de Gethsémané. Lui met l'accent surtout sur cette prière en chapitre 17 que nous avons étudiée. Mais nous savons par tous les autres évangiles que Jésus, dans le jardin de Gethsémané, a beaucoup lutté, il a agonisé, il a passé au moins une heure, voire plus, dans la prière. Et vous pouvez lire ce récit dans d'autres évangiles, par exemple Matthieu chapitre 26, vous connaissez, Jésus prend ses disciples et il dit, est-ce que vous pouvez prier avec moi? Il prend notamment Pierre. Pierre et les deux fils de Zébédée, et Jacques et Jean, il prend au moins trois avec lui et il leur demande de veiller et de prier avec lui. Et dans sa prière, dans cette prière, on sait, il demande au Père, vous connaissez sa prière, non pas ma volonté mais la tienne, mais il a aussi prié, éloigne-moi de cette coupe, mais si ça c'est possible, mais si c'est pas possible pour apporter le salut à l'humanité, eh bien, pas ma volonté mais la tienne. Et il est même revenu voir les disciples qui s'étaient endormis, il a dit, vous avez pas pu veiller et prier avec moi une heure? Alors il est retourné prier. Et il a refait cette même prière. Mon Père, s'il est possible, éloigne de cette coupe, mais pas ma volonté, mais la tienne. Donc vous voyez, c'est dans la prière qu'il a puisé une force pour répondre à ce qu'il allait venir. Mon Père, il prie. Déjà dans la prière, il puise sa force dans l'amour de son Père, l'amour de Dieu. Et quand on a puisé notre force dans l'amour de Dieu, on commence à être prêt à le répondre aux autres. Non pas ma volonté, mais la tienne. Dans la prière, il va aligner sa volonté à celle de Dieu. Dans la prière, il évoque cette coupe du jugement, cette coupe de la colère qu'il va devoir boire. Mais déjà, on comprend qu'il peut être, en ayant prié ces choses, en méditant le plan de Dieu dans la Bible, par rapport à cette coupe et ce qui sait être finalement sa mission, eh bien, il peut agir comme il l'a fait quelques instants, quelques minutes plus tard. Et c'est cette vérité que j'aimerais vous laisser. C'est que vous pouvez agir comme Jésus a fait. Vous pouvez remettre l'épée si déjà il y a une communion avec Dieu, s'il y a une dépendance de Dieu, si vous êtes sûr de son amour et de sa volonté. Par exemple, quand vous priez pour quelque chose, déjà vous voyez, ça vous aide, ça vous prépare à agir dans ce sens, n'est-ce pas? Quand vous dites le matin, aide-moi à être un bon témoin au travail. Vous êtes déjà sur la voie de l'exaucement parce qu'en priant ces choses, Dieu vous prépare à l'être un bon témoin au travail. Et il va trouver des manières d'exaucer cette prière.
quand vous priez, aide-moi à être un conjoint compatissant. Là encore, vous êtes déjà sur la voie de l'exaucement parce que vous disposez votre cœur dans la prière et Dieu va vous aider à exaucer cette prière. Ou bien, quand vous priez pour quelqu'un, notamment peut-être quelqu'un qui vous rend la vie difficile, Jésus a bien dit, priez pour vos ennemis. Quand vous priez pour quelqu'un, vous savez, il est très difficile de lui vouloir du mal en même temps. Et quand vous priez pour quelqu'un, il y a quelque chose qui déjà se libère dans votre cœur pour l'aborder autrement. À quel point, je sais, il y a des personnes qui refusent de prier ainsi parce qu'ils savent que Dieu peut exaucer une telle prière. Ils ne veulent pas lâcher l'amertume. Donc, ils refusent de prier ainsi parce qu'ils savent très bien que cette prière, quand je prie pour mon ennemi, je risque de l'aimer. Et ça, c'est fort. Donc, il faut la prière pour remettre l'épée. Et le jardin de Gethsémané est connu comme un lieu de prière, un lieu de communion avec Dieu, même dans la difficulté, même dans la souffrance. Vous connaissez le peintre français Van Gogh. Il a peint notamment des oliviers, que vous voyez un peu là, et en Provence. Mais pour lui, c'est toutes ces peintures d'oliviers qui sont devenues très célèbres. C'était une représentation du jardin de Gethsémané, où malgré les choses difficile malgré les luttes, malgré lui-même, a commencé d'ailleurs un missionnaire, un pasteur protestant, mais sa santé mentale et d'autres choses ont ébranlé sa foi. Mais même jusqu'à la fin, il a trouvé dans le jardin de Gethsémané quelque chose qui le rassurait en disant, c'est là, comme Jésus a fait, il a trouvé dans la prière, dans la communion avec Dieu, une force qui nous rend qui nous permet de faire face à tant de mauvaises choses dans la vie. Donc il nous faut la prière et une communion avec Dieu pour ensuite aborder la vie. Et c'est pour ça qu'on appelle l'Église à ces 1000 heures de prière. Ensuite, il nous faut la puissance de Jésus, sa puissance qui agit en nous. C'est bien simple, vous n'avez pas en vous la force pour agir comme Jésus l'a fait. La chair est trop présente, la réaction naturelle est domine. Comment aimer, comment répondre à Judas avec amour, comment répondre à ces soldats romains avec Malchus, comment, ça nous est impossible. Tout seul, nous allons réagir comme Pierre. Mais avec la présence, avec la puissance de Jésus à nos côtés, une autre réaction est possible. D'ailleurs, Pierre a commencé, mais Jésus a dit « Remets ton épée ». Donc, c'était Jésus qui a permis à Pierre de remettre son épée et d'agir différemment. Donc, il nous faut la puissance de Jésus, mais rappelons-nous que la puissance de Jésus est une autre sorte de puissance. Ce n'est pas une puissance comme le monde la définit. Le monde définit la puissance avec, justement, la force militaire, écraser les autres, dominer les autres, mater les autres. Pensez un peu à Judas. On apprend que c'est Judas qui conduisait cette cohorte de soldats romains. C'est Judas qui le livrait. Les autres évangiles nous donnent d'autres détails sur la manière que Jésus a livré Jésus en acceptant un paiement de 30 pièces d'argent et puis en conduisant les soldats vers ce lieu. Il savait que Jésus serait là, comme dit ces versets. Donc c'est lui qui les a conduit les Romains et les soldats et les huissiers vers Jésus. Mais pourquoi Judas a-t-il trahi Jésus? Beaucoup de gens posent la question. C'est sûr que déjà il avait un problème d'argent, on apprend qu'il volait dans la bourse, et c'est celui qui tenait un peu les comptes du groupe de disciples et il volait. Donc sûr, il avait un problème d'argent, mais 30 pièces d'argent, c'est le montant qu'on lui a payé. 30 pièces d'argent, a priori, n'était pas une très grande somme d'argent. Difficile à savoir le montant, la valeur exacte par rapport à nos jours. Dans un commentaire, on situe entre 90 euros et 3000 euros. C'est une fourchette assez large, mais 30 pièces d'argent entre 90 euros et 3000 euros. Bon, et c'est vrai qu'ils ont acheté un champ, mais c'est un champ pour les étrangers, pour enterrer à mon avis, les Juifs n'allaient pas payer très cher pour un champ, une fosse commune pour les étrangers. Et puis, les prophètes Zacharie et Jérémie qui annoncent, c'est une prophétie d'ailleurs, les 30 pièces d'argent, et quand eux, ils en parlent, ils évoquent comme une somme ridicule, une somme dérisoire. trahir Jésus pour 90 euros,
c'est pas très intéressant. Visiblement, c'était pas que pour l'argent. Alors pourquoi Judas a trahi Jésus? On connaît pas les profondeurs du cœur humain, hein, et la Bible dit pas tout, mais beaucoup estiment que Judas, et on voit ce même trait d'ailleurs dans les autres disciples, Judas était déçu de Jésus, déçu de sa manière d'être un messie. Lui, il voulait un messie puissant, il voulait un messie qui utilise l'épée, un messie qui écrase les Romains. C'est comme ça que le monde définit la réussite et la victoire. On écrase les autres. Le mal que l'Empire romain nous a fait à notre peuple juif, on va leur faire payer et on va les descendre, on va tuer en retour. Et voilà ce que Judas et les autres disciples s'attendaient à ce Messie qui domine. Mais Jésus, tout au long de son ministère, ils avaient du mal à comprendre, mais Jésus leur propose une autre puissance, une autre sorte de puissance. Pas une puissance qui domine, qui écrase, qui détruit, mais une puissance qui cherche à gagner l'autre, qui peut restaurer l'autre, qui peut guérir l'autre, qui peut convertir l'autre à l'amour de Dieu. Et d'ailleurs, si vous regardez l'histoire, finalement, c'est les rébellions armées, notamment par les faux messies juifs, les rébellions armées n'ont jamais remporté sur l'Empire romain. L'Empire romain avait une force, chaque fois il y avait le moindre violence, ils pouvaient mater ça immédiatement. Les rébellions armées n'ont jamais remporté sur l'Empire romain. Par contre, la foi chrétienne, avec son message d'amour et de pardon, a eu gain de cause de l'Empire romain et s'est propagée dans tout l'Empire pour ensuite changer le cours de l'histoire. Donc vous voyez, la puissance de Jésus est autre. C'est pas une puissance militaire qui remporte, c'est la puissance de son amour, de son action. Bien sûr, rappelons-nous que Jésus est tout puissant. Ce texte nous le rappelle et je pense que Jésus se permet de dévoiler sa puissance un moment pour rappeler que c'est lui qui mène la danse, c'est lui qui est maître de la situation. Regardez verset 8 ou verset 6. Lorsque Jésus leur eut dit, verset 5, ils lui répondirent, Jésus de Nazareth, c'est lui qu'on cherche, Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Alors, en français, on est obligé de dire, c'est moi, mais littéralement, c'est, je suis. Ego emi en grec, je suis. Et là, sur cette phrase, tous les soldats reculent et tombent à terre. Et Jean nous rappelle, et c'est sa manière de nous signaler que cette phrase est très importante dans l'évangile de Jean. C'est la 7e fois qu'on trouve juste ego emi, je suis, dans la bouche de Jésus. Et ça nous rappelle que, en fait, c'est le nom de Dieu. Jésus reprend le nom de Dieu. C'est Yahvé qui veut dire « Je suis ». C'est le nom par lequel Dieu s'est révélé à Moïse dans l'Ancien Testament. Et l'entourage de Jésus a bien compris quand il disait « Je suis, ego emi », qu'il prenait le nom de Dieu. Et donc, juste ces deux mots, juste cette phrase « Je suis » nous rappelle toute sa puissance. Il est Dieu, il était le Dieu Tout-Puissant. Il peut faire reculer, tomber par terre, juste sur deux mots, une cohorte entière de soldats romains. Et puis dans d'autres évangiles, Jésus dit qu'il avait à sa disposition des millions d'anges qui pouvaient l'aider et se battre pour lui. Et dans la Bible, d'ailleurs, les anges, c'est plutôt des guerriers de lumière que des petits bébés cupidants qui, avec des petites flèches. Donc, il n'y avait pas de souci à se faire pour Jésus par rapport à la puissance, la force. Mais il n'a pas appelé ses anges. Et nous voyons sa vraie force, sa vraie puissance dans le fait qu'il n'a pas fait appel à ses anges. Il a remis l'épée. Donc vous voyez, le choix, c'est pas être entre fort et être fort ou être faible. Parfois, on se dit, si je remets l'épée, je vais être faible, quoi, mais je vais être fort. Beaucoup se disent que se battre, c'est courageux, ne pas se battre, c'est lâche. Mais c'est souvent le contraire. Casser, détruire, porter des coups violents, ça c'est facile. Tout le monde peut faire ça. Pas besoin d'intelligence, pas besoin de prière. Casser, détruire avec la force physique, avec un coup de poing ou avec nos paroles, ça c'est facile. Par contre, répondre avec amour, prendre soin des autres, pardonner, remettre l'épée et plutôt prendre la prière, ça c'est fort. Ça c'est la vraie puissance.
Ça, c'est le vrai combat. Et vous avez besoin de Jésus pour vous fortifier à faire cela. Mais Jésus, à vos côtés, comme Jésus était à côté de Pierre, peut accomplir ces choses en vous. Et rappelez-vous que Jésus, il est puissant aussi pour vous protéger, pour prendre soin de vous. On se dit souvent, si je réagis avec amour au lieu d'amertume, si je réagis avec douceur au lieu de vengeance, je vais être humilié, je vais perdre, je vais être négligé, je dois me défendre. Mais rappelez-vous, Jésus est là pour vous protéger et pour vous défendre à sa manière. D'ailleurs, c'était sa prière et il a dit, j'ai gardé, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné en verset 9. Il a voulu garder ses disciples. Et ce soir-là, il a vraiment protégé ses disciples. Aucun d'eux n'a été arrêté ou embêté par les Romains. Ce qui est assez surprenant, parce que les Romains, en général, quand le moindre problème, eux, ils voulaient la paix, ils voulaient pas une révolte. Donc le moindre problème, ils arrivaient. D'ailleurs, lors des fêtes, ils dispatchaient plein de soldats, une force supplémentaire à Jérusalem pour garder le calme et la paix. Donc le moindre problème, les Romains arrivaient. Et puis en général, les Romains, ils arrêtaient, fouettaient, crucifiaient d'abord, et puis ils se posaient des questions après. Mais le fait que tous les disciples, finalement, aucun n'a été emprisonné, aucun d'eux n'a été crucifié, tous étaient disciples de Jésus-Christ, le monde pouvait les reconnaître comme tels, mais ils ont été libérés, parce que Jésus, quelque part, il les a protégés, il a dit, laissez-les partir, prends que moi. Et ce que Jésus a fait pour ses disciples dans le jardin de Gethsémané, nous croyons qu'il le fait pour tous ses enfants éternellement. Et c'est aussi le sens de sa prière en Jean 17, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. C'est vrai pour le jardin de Gethsémané, mais c'est vrai pendant les siècles d'histoire de la vie chrétienne, et c'est vrai pendant toute votre vie chrétienne. Il ne va pas vous perdre. Il prend soin de vous. Il va vous défendre, il va vous protéger. Donc, quoi qu'il arrive dans la vie, quoi que ce soit les critiques ou les violences que vous devez subir, sachez que la puissance de Jésus est là pour vous protéger et vous garder. Vous êtes gardé. Et enfin, pour répondre comme Jésus et pour remettre l'épée dans notre quotidien, dans nos relations, il nous faut la promesse d'un autre monde. Ce matin, je ne peux pas garantir que si vous réagissez avec amour, avec prière, avec douceur, que ce sera immédiatement efficace dans les problèmes que vous devez gérer. Probablement, même sur le coup, ça ne va pas marcher. Pierre, il a remis son épée, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tous les soldats romains étaient touchés par ce geste? Est-ce qu'en voyant l'oreille de Malchus que d'autres évangiles disent que Jésus a remis, a guéri, est-ce que Judas était tellement émerveillé, et les soldats romains tellement adoucis que tout le monde s'est converti, non? Pierre a remis son épée, et la suite, c'est que Jésus a été lié, livré et crucifié. Fin de l'histoire. Si on regarde que ce monde, pour dire oui, mais Jésus, plus tard, il commente ce qui s'est passé dans le jardin, verset 36 du même chapitre, si vous l'avez, 18-36, Jésus explique ce qu'il est, ce qu'il fait, et il dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, oui, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Jésus explique son comportement et le fait qu'il a demandé à ses disciples de remettre l'épée, de pas combattre. Il a expliqué ça parce qu'il dit, mon royaume est d'un autre monde. Et sans la promesse, sans la perspective d'un autre monde et d'une résurrection qui a suivi sa crucifixion, oui, il serait difficile de croire dans ce monde que l'amour triomphe toujours sur la haine, que la lumière triomphe sur les ténèbres, que la justice parfaite sera faite un jour. Il serait difficile de croire chez eux si on regarde ce qui se passe autour de nous, si on limite notre perspective à ce monde. sans la perspective d'un autre monde, du royaume d'en haut, le royaume de Jésus-Christ, qui revient un jour aussi, sans cette promesse, s'il n'y a que cette vie, oui, peut-être il faudra prendre l'épée tout souvent. Il faudra prendre les choses entre nos mains, parce qu'on ne peut rien espérer de plus. Il faut devenir chacun un justicier, parce que où est l'espoir d'une justice finale? Pourquoi les gens sont tentés, ou plus que tentés, pourquoi ils prennent l'épée? Pourquoi ils ont recours si souvent à la violence, la haine, la vengeance, l'amertume? Au fond, je pense qu'ils veulent, ils cherchent la justice, ils veulent rétablir une justice, par exemple, ils veulent réparer un mal. Pense à Judas. S'il est motivé, comme certains pensent, par une déception de ce que Jésus n'a pas fait justice aux Romains. Beaucoup pensent que peut-être il voulait juste déclencher une confrontation entre Jésus et les Romains pour qu'enfin les choses soient décidées et qu'après coup, il a vu que son projet n'a pas marché et il est allé se pendre. Il voulait justice pour son peuple, peut-être comme tous les Juifs. Il voyait tant de torts que cet empire violent imposé. Alors, c'est normal qu'il voulait prendre l'épée pour se défendre. Ou Pierre, il prend l'épée en quoi? On comprend, c'est par amour. Il aime Jésus, il vient de dire, Jésus, je donnerai ma vie pour toi, je vais te suivre, je vais te défendre. Donc, il voit Jésus en danger, il prend l'épée. Quelque part, c'est la motivation est pas terrible et pas affreuse. Mais le problème, c'est que nos méthodes charnelles d'imposer la justice, de rétablir, réparer un mal, nos méthodes charnelles, souvent ne font qu'augmenter le problème, augmenter l'injustice. Comme Pierre, nous sommes incapables de bien manier l'épée. Et on fait beaucoup de dégâts, on tranche les oreilles, on casse tout. Ou bien, comme Judas, nous avons du mal à monter un projet qui va vraiment rétablir le problème. Et après, on est déçu des résultats et puis beaucoup de remords. Parce que les choses nous ont échappé, la chose s'est exposée. Vous voyez, la seule personne qui est capable de bien manier l'épée, c'est Dieu. Alors, il faut laisser Dieu manier l'épée. Nous remettre l'épée, Dieu manier l'épée. Nous pouvons remettre l'épée, sachant qu'un jour Jésus, il va revenir, la Bible dit qu'il revient avec une épée. En tout cas, en Apocalypse, c'est cette image, il revient avec une épée pour juger. Mais avant ça, avant qu'il revienne avec l'épée pour rétablir justice et remettre tout en ordre, avant ça, c'est le sens de la croix, qu'il a accepté, Jésus a accepté que l'épée de la justice tombe sur lui. Il a accepté de boire cette coupe dont il est question dans notre texte en verset 11. « Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Cette coupe, c'était cette coupe de justice, cette coupe de jugement, cette coupe de la colère de Dieu sur le mal, sur le péché, sur les injustes de notre monde. Et au lieu de l'imposer à l'humanité qui le mérite, Jésus l'a bu, l'a pris sur lui-même. Et puisque c'est Jésus qui a bu la coupe du jugement, puisque c'est Jésus qui a encaissé le coup de l'épée, c'est ce qui nous libère, nous, et nous permet de le remettre l'épée. C'est ce qui nous libère, nous, et c'est pas à nous de juger, c'est pas à nous de punir le mal que nous avons fait. C'était la méthode de Judas. Finalement, il a vu que j'ai mal fait, alors je vais me punir. Et il s'est suicidé. Parce que, voilà, il a pas reconnu que Jésus pouvait prendre sa place. Donc on n'est pas obligé de se punir et on n'a pas obligé de punir d'autres qui nous font du mal. Parce que c'est géré par Dieu, c'est géré par son épée à la croix ou bien quand il revient. Et cette croix, cette bonne nouvelle de la Bible est une ressource très puissante pour nous faire agir différemment devant la haine, la violence, la vengeance que nous voyons dans ce monde. Alors ce matin, je vous invite à remettre l'épée. Vous êtes peut-être dans certaines situations, que ce soit au travail, à la maison, notre relation, où la tendance est de sortir l'épée et d'agir comme Pierre. Mais par la prière, par la puissance de Jésus qui agit en vous, par l'espérance, par la promesse d'un autre monde où tout sera rétabli, vous trouverez la force de remettre cette épée et au lieu de prendre l'épée, de prier et d'aimer comme Jésus a fait. Et je termine avec une question, une réflexion. Je me demande ce qui est devenu à ce serviteur du souverain sacrificateur Malchus. A priori, il était en tête de file. C'est le serviteur du souverain sacrificateur, donc c'est lui qui est envoyé pour arrêter Jésus. C'est lui qui va représenter en tout cas les Juifs, pas les Romains, mais les Juifs. Il semble être en tête de file pour être le premier à être attaqué. Qu'est-ce qu'il est devenu? Si tous les jours de votre vie, chaque fois que vous entendez de l'oreille droite, vous êtes obligé d'être un peu reconnaissant, non? Mais il est fort possible que Pierre, l'apôtre Pierre et Malchus sont devenus frères en Christ. Il est fort possible qu'on retrouve Malchus au ciel. Parce que si Jean inclut le prénom d'une personne relativement insignifiante dans l'histoire, les autres évangiles ne parlent pas, ne nous donnent pas le nom de ce Malchus. Mais si Jean inclut le prénom de cette personne, c'est que cette personne pour Jean est un témoin. C'est une référence qu'on pouvait solliciter, lui ou sa famille, ses descendants, pour vérifier cette histoire. C'est comme ça que les évangiles marchent d'ailleurs quand on met des détails si précis comme ça, comme l'oreille droite, comme les noms des personnes insignifiantes. C'est que ce sont des témoins. C'est des personnes qui étaient vraiment là et que Jean invite la génération, la première génération des chrétiens à les vérifier. Et si Jean invite des personnes à aller voir Malchus, peut-être il sait ce que Malchus va leur raconter, il peut faire confiance à Malchus. Et il sait que Malchus parlerait certainement de l'amour de Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour lui. Cette manière de réagir, il m'a guéri. Moi qui est venu l'arrêter, il m'a guéri. Comment ne pas être touché par tel amour? Tant de personnes ont été touchées par l'amour des chrétiens et se sont données à Christ. Et j'espère que Dieu vous donne aussi à être de tels témoins dans ce monde.